Le banquet de Noël, Nathaniel Hawthorne. Partie 1 sur 2. J'ai cherché dans ce travail, disait Rodrigue, tout en s'asseyant dans le kiosque avec Rosina et le sculpteur, et en déroulant un manuscrit. J'ai cherché à définir un personnage que j'ai rencontré dans maintes occasions. La triste expérience que j'ai acquise de bonne heure, comme vous le savez tous les deux, m'a donné quelques connaissances du cœur humain sur lequel j'ai fait des études approfondies. Mais il est un genre d'homme, une sorte de créature, veux-je dire, dont je crains de ne pouvoir jamais bien comprendre la vie et les instincts. C'est très bien ce que vous dites là, mais dépeignez-nous cet individu, répondit le sculpteur. Donnez-nous-en une idée quelconque et expliquez-vous au plus tôt. Soit, j'y consens, quoique, à mon avis, ce soit du temps perdu, répliqua Rodrigue. On pourrait croire de prime abord que l'être dont il s'agit et de la nature de ceux que vous avez formés d'un bloc de marbre, qu'il a été doué d'une intelligence extérieure, mais qu'il lui manque la dernière touche d'un créateur divin. Il a toutes les apparences d'un homme, je dirais même que ses formes sont plus belles que celles de tout autre être de son espèce que vous pourriez rencontrer. On le prendrait pour un sage. Son esprit est susceptible de culture et de goût. Et cependant, il n'excite aucune sympathie et n'en éprouve sans doute aucune. Quand on le connaît intimement, on découvre qu'il est glacé, immatériel. C'est une simple vapeur perdue dans l'immensité. « Je crois, observa Rosina, que j'ai une certaine idée de l'être dont vous pouvez parler. » « Tant mieux !» répondit le mari de cette charmante femme en souriant du bout des lèvres. « Mais n'anticipez pas sur mes paroles et ne cherchez pas à définir d'avance ce que je vais lire. » J'ai créé, dans le récit que voilà, un homme qui probablement n'a jamais existé. Comprenant ce qui manque à son organisation spirituelle, parcourant le monde sans éprouver aucune émotion et désirant changer son fardeau d'insensibilité contre un fardeau de chagrin réel, contre une angoisse de douleur plus affreuse que tout ce que le sort puisse envoyer à un misérable condamné à vivre sur la terre. Rodrigue, probablement satisfait de cette préface, commença à lire ce qui suit. Un vieux gentilhomme fit dans son testament un legs tout à fait en rapport avec la vie mélancolique et excentrique qu'il avait menée. Il laissa une somme considérable dont l'intérêt devait servir annuellement et pour toujours à organiser, le jour de Noël, un banquet auquel prendraient part 10 personnes choisies parmi les plus malheureuses qu'on pourrait trouver dans le pays. L'intention du testateur n'était pas de faire oublier à des infortunés leur chagrin pour quelques heures. Il voulait, au contraire, agir de telle sorte qu'ils en ressentissent mieux les atteintes. En choisissant même ce jour consacré et ordinairement joyeux, où ceux qui étaient invités au banquet auraient pu perdre un instant la souvenance de leurs mots au milieu des acclamations de joie proclamées à l'occasion de cette solennité par toute la chrétienté, le testateur n'avait que l'intention de perpétuer son peu de foi dans les œuvres de la Providence, laquelle, prétendait-il, s'inquiétait fort peu du sort des pauvres humains. Le vieux gentilhomme avait désigné, pour ses exécuteurs testamentaires, deux de ses plus intimes amis, qui étaient, comme lui, de sombres humoristes et dont la seule occupation était d'observer tous les malheurs auxquels nous sommes exposés. Il se refusait même à l'évidence qui prouve qu'un Dieu bienfaisant a placé le bien à côté du mal, et que chaque devoir que nous accomplissons, tout pénible qu'il soit, est la source d'un vrai plaisir. Ces deux philosophes, d'un genre tout particulier, étaient donc chargés d'inviter les convives du banquet, ou de les choisir parmi ceux qui prétendaient avoir quelque droit à assister à ce bizarre festin. Le premier repas eut lieu. Pour dire vrai, l'aspect des convives n'était pas fait pour satisfaire ceux qui les auraient aperçus rangés autour de cette table, car les chagrins de ces personnages ne suffisaient pas pour donner une idée du grand nombre des souffrances répandues sur la terre. Et pourtant, après un examen de quelques instants, on ne pouvait contester que ces souffrances, tout en provenant de causes en apparence imaginaires, accusaient néanmoins la nature de notre organisation. Les décorations de la salle du banquet étaient arrangées de manière à rappeler aux convives que le seul but que nous soyons sûrs d'atteindre ici-bas, c'est la mort. Telle avait été la pensée immuable du testateur. Éclairée au moyen de torches, cette salle était toute tendue de draps noirs, ornée de guirlandes faites de branches de cyprès et de couronnes d'immortelles desséchées, semblables à celles qu'on jette sur les cercueils. Chaque assiette était entourée de persil. Le vin, décanté dans une urne d'argent, était versé à chaque convive dans de petits vases pareils à des lacrymatoires romains. Les exécuteurs de ce legs singulier, je ne saurais dire si c'était leur goût qui avait présidé à tous ces détails, n'avaient pas oublié l'usage des anciens Égyptiens qui plaçaient un squelette à la table du festin, dans le but de se moquer de la gaieté des convives. Le squelette était enveloppé d'un manteau noir et placé sur un siège au centre de la table. On prétendait que le testateur lui-même avait vécu en compagnie de ce triste emblème de la mort et qu'il avait stipulé, dans son testament, qu'on placerait chaque année ce squelette au milieu des 10 convives qu'il invitait au banquet de la fête de Noël. Selon toute probabilité, le vieux gentilhomme désirait prouver que, pendant sa longue existence, il n'avait jamais cru à une autre vie. Que signifie cette couronne ? Demandèrent à la fois plusieurs invités en entrant dans la salle où le banquet était préparé. Ces gens-là faisaient allusion à une couronne de cyprès, appendue à l'extrémité du bras du squelette, qui sortait seul des plis du manteau noir dont il était enveloppé. Un des exécuteurs testamentaires répondit : c'est une couronne qui sera offerte non pas au plus digne, mais au plus malheureux lorsqu'il aura prouvé qu'il a le droit de l'obtenir. Le premier invité était un homme d'un caractère doux, mais tout à fait dénué d'énergie pour combattre le profond découragement auquel il était naturellement enclin. Aussi, sans que rien en apparence pût l'empêcher de prétendre au bonheur, avait-il passé sa vie dans la plus molle indolence, à tel point que son sang, ayant presque oublié de circuler dans ses veines, oppressait sa poitrine et faisait battre son cœur avec violence. Son malheur dépendait donc de son organisation. Le deuxième convive était misérable parce qu'il avait un esprit inquiet et malade. Il était même devenu tellement impressionnable qu'un mot piquant d'un ennemi, la plaisanterie la plus inoffensive d'un étranger, la pression d'une main amie, lui était pénible comme c'est ordinairement l'habitude de ces gens-là. Sa principale occupation était d'exposer ses griefs à ceux qui voulaient bien les entendre. Le troisième individu était un hypocondriaque, à qui son imagination faisait trouver des monstres partout. Il en apercevait même au coin de son feu. Il se figurait voir des dragons dans les nuages, des esprits infernaux cachés sous les traits des plus jolies femmes, quelque chose d'affreux et de malfaisant dans tout ce que la nature offre de plus enchanteur. Son voisin était un de ces hommes qui, dans leur première jeunesse, ont eu une trop grande confiance dans leurs semblables. Il avait trop espéré d'eux. Il avait été si souvent trompé qu'il était devenu misanthrope. Depuis plusieurs années, il cherchait tous les motifs possibles pour haïr et mépriser l'humanité entière. Et il n'avait, pour faire cela, qu'envisager le meurtre, la débauche, la fausseté, l'ingratitude, le manque de bonne foi entre amis, les vices instinctifs chez les enfants, tous les crimes cachés des êtres créés à l'image de Dieu et qui ont tous les dehors de la vertu. Il lui fallait seulement examiner une à une toutes ces tristes réalités qui cherchent à se décorer des apparences les plus attrayantes. Mais à chaque mauvaise action qu'il inscrivait sur son catalogue, à chaque nouvelle découverte qui augmentait la triste nomenclature instructive à laquelle il avait voué sa vie, son cœur, naturellement aimant et confiant, recommençait à saigner. L'homme, qui venait ensuite, avait des sourcils épais et tenait les yeux baissés. Sa physionomie exprimait la passion et montrait une animation sans pareille. Dès sa plus tendre enfance, il s'était cru un messager inspiré par la divinité et avait essayé de remplir la mission à laquelle il pensait être destiné. Hélas, il n'avait pas été assez éloquent pour se faire écouter. Une fois convaincu de son impuissance, il s'était sans cesse adressé cette pénible question. Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas m'entendre et se laisser persuader ? C'est parce que je suis un fou. Qu'ai-je à faire ici-bas ? Quand trouverai-je ma tombe ? Pendant tout le festin, cet homme se versait de fréquentes rasades pour éteindre, disait-il, le feu céleste qui le consumait et qui était inutile à sa race. Tout à coup, on vit entrer, après avoir froissé et jeté un billet de bal, un petit maître qui, la veille du jour de ce banquet, avait aperçu 4 ou 5 rides sur son front et plus de cheveux blancs sur sa tête qu'il ne pouvait en compter. Doué d'intelligence et de sentiments, le vieux dandy avait follement dépensé sa jeunesse et était arrivé à cette époque de la vie où la folie nous abandonne et nous oblige à aimer la sagesse. Pour compléter le nombre des convives, les exécuteurs testamentaires avaient invité un malheureux poète, réduit à la plus grande misère, et un idiot, qu'ils avaient trouvé au coin de la rue. Ce dernier avait juste assez d'intelligence pour savoir ce qui lui manquait. Il cherchait donc vainement ce que la nature lui avait refusé et dans ce but il errait ça et là dans les rues en gémissant car il s'apercevait que ses efforts étaient inutiles. La seule dame qui eût pénétré dans la salle du banquet aurait été parfaitement belle si elle n'eût légèrement louché de l'œil gauche. Mais ce défaut, si petit qu'il fût, la chagrinait à un tel point qu'elle passait sa vie dans la solitude et qu'elle n'osait même pas se regarder dans une glace. On plaça cet infortuné en face du squelette. Il nous reste un autre convive à décrire. C'était un jeune homme de bonne mine, à l'air doux, au maintien élégant. À le voir, on eût pensé qu'il aurait plutôt dû aller s'asseoir à quelque joyeuse table qu'à celle où se trouvaient tous ces malheureux. Un bruit de murmure s'éleva parmi les autres convives lorsqu'ils remarquèrent le regard inquisiteur jeté sur eux par le nouveau venu. « Que vient faire ce monsieur parmi nous ? Pourquoi le squelette du fondateur de cette fête ne se lève-t-il pas et ne chasse-t-il pas cet étranger ?» « C'est honteux !» ajouta le malade, qui éprouva un nouvel élancement au cœur. « Ce gentleman vient ici pour se moquer de nous. Nous allons servir de texte à ses plaisanteries. Quand il retournera auprès de ses amis à la taverne voisine, il rira avec eux de nos misères et les exposera peut-être sur le théâtre dans un drame de sa composition. » « Et qu'importe, » reprit l'hypocondriaque en souriant d'un air de dédain. « Il portera à ses lèvres une cuillère de soupe faite avec des vipères. Et s'il y a une macédoine de scorpions sur la table, il faudra bien qu'il en ait sa part. Après tout, si notre banquet de Noël lui convient, il y reviendra l'année prochaine. » « Ne le troublez pas, » murmura avec douceur le personnage mélancolique. Peu importe qu'il acquiert quelques années plus tôt ou plus tard la conscience du malheur. Si ce jeune homme se croit heureux maintenant, laissez-le s'asseoir parmi nous, car il ignore quels sont les mots qui l'attendent. Le pauvre idiot s'approcha du nouveau convive avec cet air inquiet et inquisiteur qu'on remarquait toujours en lui, ce qui faisait dire qu'il était sans cesse à la recherche de l'esprit qui lui manquait. Après s'être livré à un court examen, le pauvre insensé toucha la main de l'étranger tout en retirant immédiatement la sienne, puis il branla la tête et un frisson parcourut ses membres.
« C'est froid ! C'est froid !» s'écria l'idiot.
Le jeune homme ne put réprimer un frisson de terreur et sourit pourtant avec grâce. « Messieurs et madame, » dit alors un des ordonnateurs de la fête, « n'allez pas nous taxer d'insanité et croire que nous avons admis ce jeune étranger qui s'appelle Gervais Hastings, sans avoir pris de minutieuses informations. Croyez-moi, personne entre vous n'a, plus que lui, le droit de venir s'asseoir à cette table. » Chacun se crut obligé d'accepter ces paroles. Puis ensuite, les invités prirent leur place. La bonne harmonie fut bientôt troublée par l'hypocondriaque, qui repoussa sa chaise en se plaignant à haute voix parce que, disait-il, on avait mis devant lui un plat contenant des crapauds et des vipères. On chercha à lui faire comprendre qu'il se trompait. Il reprit alors tranquillement son siège. Le vin coulait à grands flots de l'urne sépulcrale. Mais on eût dit qu'il en sortait mêlé à de sombres inspirations. Ainsi, au lieu d'exciter à la gaieté, il ne servait qu'à augmenter la tristesse générale. Les convives se racontaient des histoires effrayantes sur certains personnages qui auraient eu de grands droits à venir s'asseoir parmi eux. On parlait des maux auxquels tous les hommes sont exposés, de crimes horribles, d'existences qui n'avaient été que de longues agonies, d'autres qui paraissaient heureuses et qui avaient été empoisonnées tôt ou tard par de cuisants chagrins. On s'entretenait des derniers moments des humains, de leurs dernières paroles, d'instructions qu'on pouvait en tirer, des différentes manières de mettre fin à ses jours, des moyens préférables à employer pour y parvenir, le couteau, le poison, la noyade, la pendaison ou la vapeur du charbon. La plupart des convives, comme c'est l'habitude chez les gens très affligés, aimaient à parler de leur malheur et cherchaient à en faire le sujet de la conversation générale. Ils voulaient, avant tout, prouver que leur propre infortune était la plus grande de toutes. Le misanthrope, énumérant tous les torts du genre humain à son égard, prétendait que l'homme est incapable d'éprouver aucun bon sentiment, et il se plaisait à rappeler tous les faits qui pouvaient appuyer son opinion. Mais, puis, dès qu'il eut exprimé sa manière de penser, il cacha son visage dans ses mains et pleura amèrement. Ce banquet, on le voit, était une fête à laquelle chaque homme et chaque femme, quelque favorisés qu'ils fussent par la fortune, eût pu, dans un moment donné, réclamer le triste privilège d'assister. Tant que dura le festin, on remarqua que le jeune étranger, Gervais Hastings, n'éprouva pas la moindre émotion. toutes les tristes pensées exprimées par ses compagnons le trouvaient insensible. Son regard trahissait plus d'étonnement que celui du pauvre idiot dont le cœur cherchait à comprendre et qui souvent parvenait à son but. La conversation de Gervaise était froide, incisive, légère et souvent éloquente. Mais on découvrait que celui qui parlait n'avait jamais ni aimé ni souffert. « Monsieur, dit d'un ton brusque le misanthrope qui répondit à quelques observations d'Hastings, je vous prie de ne plus m'adresser la parole. Nous ne pouvons nous comprendre, car nos sentiments n'ont rien de sympathique. De quel droit êtes-vous venu vous joindre à nous ? Je ne saurais le deviner, mais il me semble qu'après avoir prononcé les phrases malséantes que nous venons d'entendre, vous devez nous considérer, mes compagnons et moi, comme des ombres flottant sur la muraille. À dire vrai, vous nous produisez le même effet. » Le jeune homme se mit à sourire, s'inclina avec politesse, repoussa sa chaise en arrière sans se lever et boutonna son habit sur sa poitrine, comme si la salle du festin fût devenue plus froide. L'idiot fixa encore une fois son regard mélancolique sur le jeune homme et murmura ces paroles. « C'est froid, c'est froid, c'est froid !» Le banquet, une fois terminé, les convives se retirèrent. À peine eurent-ils franchi le seuil de la porte que la scène qui venait d'avoir lieu ne semblait plus à leur souvenir que la vision d'un esprit malade. De temps à autre, pendant l'année suivante, ces infortunés s'entrevirent ça et là, ce qui convainquit chacun d'eux qu'ils étaient bien tous des habitants de la terre et qu'ils existaient réellement. À diverses reprises, plusieurs d'entre eux se trouvèrent le soir face à face, enveloppés dans de sombres manteaux. Quelquefois aussi, ils se rencontrèrent dans des cimetières. Il arriva aussi que certains convives du banquet de Noël tressaillirent en se reconnaissant à la lumière du soleil au milieu d'une rue fréquentée où ils erraient comme des spectres. Sans doute, ces gens-là étaient surpris que le squelette ne sortît pas aussi à l'heure de midi. Mais chaque fois que, par suite de leurs affaires, les convives du banquet de Noël étaient obligés de se mêler à la foule, ils étaient certains de rencontrer le jeune homme qui, sans qu'on pût en découvrir la cause, avait pris part à cette fête lugubre. En le voyant se mêler aux heureux du jour, en apercevant son œil brillant, en entendant résonner ses paroles légères et insouciantes, chacun d'eux se disait en lui-même, avec indignation, « Quel traître! Quel vil imposteur! La Providence, dans un temps donné, permettra qu'il ait réellement le droit de venir s'asseoir au milieu de nous !» Le jeune homme, loin de détourner son regard, l'arrêtait, au contraire, sur chaque triste visage passant près de lui, et semblait dire avec un air de mépris, « Hélas, si vous connaissiez mon secret, vous pourriez alors comparer vos droits avec les miens. »